Voilà, bonjour bien-aimés. Nous bénissons Dieu qui nous fait la grâce, n'est-ce pas, d'avoir cette liberté, comme je le dis régulièrement, de pouvoir nous rassembler en Église. Cette liberté-là, il faut la chérir et il faut faire en sorte qu'elle ne soit pas une option. C'est-à-dire que nous ne disions pas, ah, ce dimanche, je ne vais pas à l'Église. On a des frères et sœurs dans le monde entier qui, eux, cherchent avec hardiesse un dimanche matin où pourront se réunir avec d'autres chrétiens pour être encouragés, prier ensemble. Malheureusement, ils n'ont pas ce choix parce qu'ils vivent dans des pays persécutés, parce qu'ils vivent dans des endroits où ils n'ont pas cette liberté-là. Alors nous qui l'avons, chérissons cette liberté comme une grâce de Dieu et faisons en sorte que ceux pour lesquels Dieu nous donne cette liberté-là, que nous puissions la vivre. Amen. J'aimerais ce matin, par la grâce de notre Dieu, nous entretenir sur un thème qui est un peu le prolongement du thème que nos sœurs ont étudié pendant leur week-end de retraite. C'est un thème qui est vaste. Lorsqu'on étudie le thème de la souveraineté de Dieu, c'est un thème qui traverse en fait beaucoup de domaines, puisque de toutes les façons, Dieu est souverain. Et cette souveraineté se manifeste dans bien des domaines. Ce matin, j'aimerais aborder avec vous un aspect de cette souveraineté. Et nous allons nous appuyer sur le passage que nous connaissons, en tout cas pour quelques-uns d'entre nous. Dans l'Épître aux Romains, Romains chapitre 8. Pour nous qui connaissons ce verset, c'est Romains 8, 28, hein, qu'on aime réciter, reprendre quand il y a des moments qui sont un peu des moments difficiles, n'est-ce pas? Et j'aimerais qu'on puisse regarder ce verset, pas lui seul, mais dans le contexte dans lequel il est donné, avec l'idée de regarder la souveraineté de Dieu. Je vous invite donc à faire la lecture de la parole de Dieu, Romains chapitre 8, à partir du verset 23. Bien plus, nous aussi qui avons les prémices de l'Esprit, nous aussi nous soupirons en nous-mêmes, en attendant l'adoption filiale, la rédemption de notre corps. Car c'est dans l'espérance que nous avons été sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus une espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. De même aussi, l'Esprit vient au secours de notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs sait à quoi tend l'Esprit. C'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Nous savons du reste que tout coopère pour le bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son projet. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi destinés d'avance à être configurés à l'image de son Fils, pour qu'il soit le premier-né d'une multitude de frères, et ceux qu'il a destinés d'avance, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés, et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Amen. J'ai fait la lecture dans une version qui est la version Semeur, qui du reste ne rend pas le verset 28 comme nous le connaissons, pour nous qui sommes habitués à la version Louis II, n'est-ce pas? Car dans la version Louis II, le chapitre 28 est intitulé « Car nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. » Et nous verrons pourquoi cette version prend cet autre verbe « coopère ». Et j'aimerais situer quand même l'épître aux Romains. Cette épître est l'une des celles dont on dit « c'est une épître de doctrine ». Même si elle est vraie qu'elle n'est pas remplie que de doctrine, mais souvenons-nous que la Rome de l'époque, c'est vraiment la capitale du monde le plus évolué de l'époque. Hein. Et c'est un peu l'aboutissement du ministère de l'apôtre Paul. Quand le Seigneur se révèle à l'apôtre Paul dans Actes chapitre 9, il lui dit que tu seras mon témoin parmi les autorités, parmi les politiques, parmi les militaires, parmi les peuples non-juifs, et tu le feras jusqu'aux extrémités. Et il semble que À cette époque-là, quand on disait extrémité, c'était les extrémités du monde connu, hein, du monde civilisé. Et cette extrémité-là allait jusqu'à Rome. Rome était le symbole de la civilisation de l'époque. Et c'est à cette église, dans cette ville de Rome, que l'apôtre Paul écrit cet évangile-là. Il parle beaucoup de la puissance de l'évangile dans cette épître. Paul n'a pas bâti cette église lui-même, puisqu'il y arrive alors qu'il est prisonnier. Hein. Il y arrive alors qu'il a appelé à être jugé par César. Et que tout le long de son troisième voyage missionnaire, ça va être ce cortège qui va le conduire jusqu'à Rome, alors que citoyen romain qu'il est, il est sous le coup d'un jugement, mais son privilège d'être citoyen né romain lui a donné ce privilège de demander à être jugé par l'empereur. Et tout citoyen né romain qui demande cette faveur lui est accordée. Et c'est comme ça que Paul va être escorté et qu'il sera en résidence, comme on dit aujourd'hui, en résidence surveillée à Rome. Et donc il va avoir la liberté de rencontrer plein de gens, notamment les chrétiens de Rome. Et il va leur écrire cette épître un peu plus tard. L'évangile comme la puissance du salut. C'est comme ça qu'il commence cette épître aux Romains. L'évangile comme la puissance du salut. Il va en parler pendant les 5 premiers chapitres, n'est-ce pas? En démontrant que la vraie puissance, elle est dans l'évangile. Le mot qu'il utilisera, c'est le mot qui a donné dynamite. Hein, l'évangile est une dynamite. Elle explose à l'intérieur d'une vie. Elle explose en beauté, comme un peu un feu d'artifice. Elle explose en donnant quelque chose de beau, d'agréable, de meilleur dans l'être qui le reçoit. Elle établit la paix, cette communion, cette relation retrouvée avec Dieu. Il dit que cet évangile n'est pas quelque chose qui est de l'ordre de l'humain, c'est Dieu lui-même. Et lui, l'apôtre Paul, n'est qu'un instrument de cette puissance de Dieu. C'est pour cela qu'il pourra dire plus tard, malheur à moi si j'annonce pas l'évangile. Parce que cette nouvelle est une nouvelle qui fait du bien aux hommes qui l'entendent et qui le reçoivent. Il va aussi exprimer dans cette épître que malheureusement il y a une lutte, hein, dont lui-même il va se faire un peu l'écho à partir du chapitre 7, hein, entre ce qu'on appelle la chair, c'est-à-dire notre nature pécheresse héritée de notre filiation avec Adam et Ève, cette nature qui du reste nous pousse plus au mal qu'au bien. Elle nous restreint d'aller vers Dieu, elle nous pousse plutôt à nous détourner de Dieu. C'est ce qu'on appelle la chair, ce principe de notre nature sans Dieu. Et il dit, cette nature sans Dieu, c'est vrai qu'elle sait faire le bien. En tout cas, elle sait le bien. Mais est-ce qu'elle sait faire toujours le bien? Il arrive à la conclusion que non. Il dira, le bien, je sais dans mon esprit le bien qu'il faut faire. Mais je n'arrive pas toujours à faire le bien que je voudrais faire. Au contraire, ce qui m'arrive régulièrement, c'est que, alors que c'est le bien que je veux faire, c'est le mal que je ne veux pas faire que je réalise, et le bien que je voulais faire, je n'arrive pas à le faire, du moins. Il dit, je suis dans cette lutte, dans ce combat, je suis comme écartelé, et je n'ai pas de solution. Et il va avoir ce grand cri de désespoir dans ce chapitre 7, qui me délivrera de ce corps de péché? Qui me délivrera de ce principe qui m'enferme alors que mon esprit a bien capté ce que c'est que le bien, mais mon être ne peut pas le faire aussi simplement qu'il voudrait le faire. C'est le mal qui se réalise, c'est le mal que je fais. Et dit, gloire soit rendue à Dieu parce que Christ est venu payer le prix pour cela. Non seulement il a donné sa vie, non seulement il est mort, mais bien plus, il est ressuscité. Et que tous ceux qui reçoivent le Christ reçoivent la loi de la liberté. Car c'est de cette liberté. Si le Christ vous a franchi, vous êtes réellement libre. Libre des jougs du péché. Libre de la loi du mal. Libre de cet enfermement qui nous empêche de voir le bien et de faire le bien. Et dit, gloire soit rendue à Dieu, car Christ a réalisé cela pour moi. C'est pour cela que dans l'épître qu'on appelle l'épître posthume, hein, l'épître qui sera un peu celle de son testament, il dira, la mort m'est un gain, car pour moi désormais, ce qui compte, c'est le Christ. Parce que ce que Christ a fait de moi, personne d'autre n'aurait pu faire. C'est pour cela que ce que je suis, toute la fierté que je pouvais avoir d'être né juif, d'être circoncis le huitième jour, d'être de la frange la plus fidèle à la parole pharisien, je regarde tout cela comme de la boue. Parce que ces choses, certes, elles ont été utiles dans ma vie, mais la personne du Christ, le jour où Christ m'a rencontré, Actes chapitre 9, sur ce chemin de Damas, c'est le plus beau jour de ma vie. Car ce jour-là, il m'a libéré. Il m'a donné le vrai sens à ma vie. Christ en moi, l'espérance de la gloire. Je ne disais autre chose que le Christ manifesté. Et c'est dans cette mouvance de la puissance de l'évangile qu'il va justement parler de l'évangile comme puissant de Dieu pour le salut. Et c'est là que s'insère ce chapitre 8 que nous avons lu, où il dit au verset 23, bien plus, nous aussi qui avons les prémices de l'Esprit, nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption filiale, la rédemption de notre corps. Donc il y a ce désir qui est poussé par l'Esprit en nous. Et plus haut dans ce chapitre, il dira, car l'Esprit témoigne à nous-mêmes que nous sommes enfants de Dieu, et c'est ce que nous sommes. En tout cas, pour tous ceux qui ont fait la paix avec Dieu, qui ont accepté Christ comme leur sauveur, le Seigneur personnel, qui ont dit à Dieu, je suis un pécheur, je suis une pécheresse. Je pensais que de par moi-même, je pensais que de par la loi du bien et du mal, si je faisais le bien, j'allais me soustraire à cette avilité qui est la loi de la mort. Je réalise que ni moi, ni mes œuvres, ni personne d'autre ne peut me sauver. C'est pour cela qu'il écrira en Romains chapitre 3, 23, car tous ont péché et sont tous privés de la gloire de Dieu. Il n'y en a même pas un seul qui peut dire, moi, à cause des œuvres que j'ai faites, Dieu doit me sauver. Ce n'est pas possible, ce n'est pas possible. Tous ont péché, tous sont privés de la gloire de Dieu. Mais Dieu fait ceci. Alors que nous étions pécheurs, Christ est mort pour nous. Alors que nous étions loin de lui, il a été le premier à prendre l'initiative de nous aimer, bien avant toute chose. Et c'est pour cela qu'il dira ce que nous allons détailler maintenant. La foi est une ferme assurance. La foi est une ferme assurance des biens qu'on espère. Dans ce premier ensemble de versets, verset 23, verset 25, il dira, comment peut-on espérer ce qu'on voit déjà? Ce qu'on voit déjà, on ne l'espère plus, puisque c'est déjà là devant nous, n'est-ce pas? Il dit pourtant, nous sommes sauvés en espérance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre salut a deux étapes. Lorsque Dieu nous révèle que nous sommes pécheurs et pécheresses, et que l'Esprit de Dieu agit dans nos cœurs pour que nous sentions toute la laideur de ce que nous sommes au-dedans de nous devant Dieu, parce que parfois nous sommes convaincus que nous sommes beaux devant Dieu. Hein. C'est le Saint-Esprit qui, à un moment donné, se manifeste en nous au travers des circonstances ou en tout cas une prédication, où nous réalisons que finalement, nous ne sommes pas si beaux que ça, intérieurement, et que nous étions en train de nous fourvoyer, parce que de toutes les façons, sans Christ, le chemin qui nous attendait, c'était le chemin de l'enfer, le chemin de la perdition éternelle. Et lorsque nous réalisons cela et que nous donnons notre vie à Dieu, la Bible dit que Christ vient habiter en nous par son esprit et nous sommes sauvés. Il nous donne le salut là, sur le moment, instantanément, et c'est un fait. N'est-ce pas? Avec ce cantique qui est un cantique fort. J'ai l'assurance de mon salut par la présence du Sauveur Jésus. Donc c'est une assurance, c'est sûr que Dieu me l'accorde. Parce que ce n'est pas mes œuvres. Si c'était mes œuvres encore, je pouvais douter. Puisque dans mes œuvres, il y en a qui sont bien, il y en a qui ne sont pas bien. Et je ne sais pas toujours comment compter mes œuvres bonnes par rapport aux œuvres mauvaises. Vous savez, il y a une religion qui dit, en fait, au jour du jugement, c'est une religion qui le dit, pas la foi chrétienne, tu seras devant la justice de la balance de Dieu. Dieu va peser tes bonnes actions et tes mauvaises. Si Si tes bonnes œuvres arrivent à peser plus que tes mauvaises œuvres, alors peut-être, tu seras sauvé. Mais si tes mauvaises œuvres pèsent plus que tes bonnes œuvres, c'est sûr que tu iras en enfer. Donc, beaucoup de religions savent que nos œuvres nous disqualifient, n'est-ce pas? Car quand on parle des œuvres, on ne parle pas simplement de ce que nous faisons, mais on parle aussi de ce que nous pensons. Or, la matière de nos pensées va savoir ce qui se passe dans nos têtes. Bref, la foi est une ferme assurance. Quand Jésus dit, il nous donne le salut, je suis le bon berger, et le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mes brebis me connaissent par mon nom, je les appelle chacune et elles me suivent. C'est une assurance, c'est une évidence. Le salut est accordé une fois pour toutes. Simplement qu'il n'est pas totalement réalisé tant que nous ne sommes pas dans la présence de notre Dieu. Donc, nous sommes sauvés, mais nous espérons rester dans ce salut jusqu'à la rencontre ultime, un jour, dans la présence de notre Dieu. C'est pour cela qu'il y a la notion de la persévérance des saints. Ceux qui sont sauvés sont invités à persévérer, à tenir bon. C'est pour cela qu'il dit, on espère encore, on espère parce que notre salut, il est présent. On appelle ça en théologie le déjà, il est déjà là, mais il n'est pas encore complet parce que nous attendons cette plénitude dans la présence de notre Dieu. Et il faut espérer cette plénitude-là. Et c'est ce qu'il affirme, n'est-ce pas? Il affirme cela avec cette espérance que le croyant attend avec persévérance. Cette garantie, c'est Jésus qui nous l'accorde. As-tu l'assurance de ton salut? Comme les anciens le disaient autrefois, si Jésus venait à te surprendre, quelle que soit l'heure de la journée, es-tu sûr que tu seras avec lui au ciel? As-tu cette paix-là dans ton cœur? Si Jésus venait là pendant que nous sommes dans cette église, es-tu sûr qu'il te dira: bonne et fidèle servante, passe à la droite de ton maître. Es-tu sûr que Jésus te dira, mon fils bien-aimé, passe à ma droite. Cette assurance, elle n'est pas liée à nos œuvres d'abord. Elle est liée à notre reconnaissance de notre état de pécheur, de pécheresse et de l'acceptation du sacrifice de Jésus à la croix. Apocalypse 3, 20 dit, je frappe à la porte de ton cœur. Si tu ouvres, j'entrerai et je souperai avec toi. Deuxièmement, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit. Au verset 16, il dira, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes aussi héritiers de Dieu. Et nous sommes co-héritiers du Christ, s'il est vrai que nous souffrons avec lui pour être aussi glorifiés avec lui. Donc, il dit cela. Au verset 28, il dit, nous possédons les prémices de l'Esprit. Cette troisième personne de la Trinité manifeste sa présence en nous. Au verset 8 de ce même chapitre, il dira, si l'Esprit de Dieu habite en vous. Or, la Bible dit que personne ne peut dire Christ est Seigneur, Christ est Fils de Dieu, si ce n'est pas l'Esprit en lui. Donc, tout chrétien authentique qui confesse sincèrement du fond de son cœur, qui a renié son passé de pécheur et qui a accepté Jésus, la Bible dit que l'Esprit de Dieu vient cohabiter avec lui. C'est un privilège que Dieu accorde à ceux qui ont fait la paix avec lui. Et c'est Jésus qui le dit dans l'évangile de Jean, chapitre 1er. Car tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le privilège de devenir enfant de Dieu. Et ce n'est ni par la chair, ni par le sang, mais par l'Esprit de Dieu. Alléluia. C'est par l'Esprit de Dieu. As-tu vécu, soit ce temps particulier, un temps comme ça, t'es là et maintenant, ou une période de temps où tu as vécu une expérience spirituelle, où tu as senti cette paix que Dieu donne par son esprit lorsqu'on est en communion avec lui. C'est une expérience unique. On la vit soit instantanément, on la vit soit sur une période où on vit une certaine paix qui vient là au fond de notre âme et qui nous porte de façon extraordinaire. Ce n'est pas toujours quelque chose qui va venir de façon extraordinairement avec, je ne sais pas moi, des tremblements de terre. Moi, je l'ai vécu avec assez de simplicité finalement. Ce certain mardi soir, dans cette chambre d'étudiants, il y a plus de 20 ans, devant ce cousin qui m'annonçait l'évangile, où cet esprit de Dieu a fait cette action en moi parce que j'étais en recherche de Dieu en ce moment-là. Et quand il m'a annoncé cette bonne nouvelle de l'évangile, je pense que l'Esprit de Dieu m'a aidé simplement à capturer, à reconnaître que c'était mon moment où Dieu se présentait à moi. Et là, il m'a dit, veux-tu accepter le Seigneur, Serge? J'ai dit, oui, je vais accepter le Seigneur Jésus. Le monde ne s'est pas écroulé, il n'y a pas eu de tremblement de terre, je ne suis pas rentré en transe. Mais j'avoue qu'il y avait quelque chose qui avait changé, il y avait quelque chose qui avait changé. Quelque chose que je ne pourrais pas décrire. Mais moi qui étais quelques heures avant angoissé par la peur de la mort, parce que c'était ce que je vivais en ce moment-là, dans cette expérience-là, je vous l'ai plusieurs fois raconté, après cet accident de circulation, il y a eu 5 morts avec cette hantise de la mort qui presque m'angoissait quotidiennement malgré la joie que j'avais d'être avec mes copains et tout, mais quand j'étais seul, ça revenait. Et cette présentation de l'évangile m'a donné cette paix-là. Du jour au lendemain, ma vie était comme une tempête apaisée. 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 Jusqu'aujourd'hui, cette paix, elle est là. Et cette paix, c'est Dieu qui la donne. Et c'est l'Esprit qui l'imprime en nous. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Il imprime cela en nous, bien-aimés. Alors, c'est ce même esprit dont parle aussi l'apôtre ici. Cet esprit, c'est lui qui nous rend capables d'intercéder, de prier. Même quelquefois, quand nous ne savons pas comment le faire, n'est-ce pas? Il intercède pour nous. Il prie pour nous. Dans cette attente patiente, persévérante, dans cette espérance, dans notre salut qui est déjà et pas encore complet, l'Esprit nous aide sur ce chemin. L'Esprit nous aide dans notre pèlerinage. Il est notre compagnon. Quelle grâce, quel privilège. Il intercède et nous secourt. Dans nos faiblesses, il se manifeste, l'Esprit de Dieu. Parce qu'il sait que nous sommes faibles à cause de notre nature pécheresse. L'apôtre Paul dit que malheureusement, nous sommes encore dans cette tente de chair, n'est-ce pas, qui, elle, est encore titillée par le mal, même si l'Esprit nous a renouvelés, n'est-ce pas, et l'Esprit est là pour nous donner. Souvenez-vous de Galates chapitre 5, qui dit, car les œuvres de la chair sont manifestes. On les connaît, elles sont là, elles sont visibles. Et les œuvres de l'Esprit aussi sont là. Il dit quoi? Marchez par l'Esprit et vous n'accomplirez pas les œuvres de la chair. Car l'Esprit a un itinéraire qui est contraire à celui de la chair. Il dit l'Esprit est disponible. L'Esprit de Dieu est disponible, comme disent les publicités, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours sur 365 jours. Il est toujours disponible. C'est ce qu'on appelle le temps de grâce. Dans ce temps de grâce, l'Esprit de Dieu est disponible. C'est lui qui aide à orienter nos prières, car nous ne savons pas toujours. C'est lui qui, dans nos silences, se saisit de tout ce que nous pouvons porter en nous et les porte à Dieu, comme ensemble d'autrefois qui montaient à Dieu pour les prières des saints. Dans ce domaine de la communication, de la communion avec Dieu, qui est un acte majeur, qui est un acte spirituel, heureusement que nous avons l'appui du Saint-Esprit pour nous aider. N'oubliez pas que dans la prière, l'Esprit de Dieu est là pour vous aider, pour nous aider. Même si parfois, on n'est pas aussi éloquent, parce que la prière n'est pas une question d'éloquence. La prière n'est pas une question d'articulation de nos mots. La prière, d'abord, les motivations qui sont au fond de nous, ce que nous vivons. Et les psaumes sont une grande leçon en la matière. Les psaumes sont toutes les expressions, en tout cas ceux de David, sont les expressions variées, diverses des prières de David. Quand parfois il était émerveillé des grandes choses que Dieu faisait, c'est des psaumes d'émerveillement. N'est-ce pas? Quand il a été au contact de cette réalité de l'Éternel qui prend soin de ses brebis, il a écrit le psaume 23, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » N'oubliez pas que les psaumes sont un recueil, donc ce n'est pas un livre dont les chapitres se suivent les uns après les autres, c'est des poèmes qui ont été regroupés. N'empêche qu'il faut lire le psaume 22 pour comprendre le psaume 23. Dans le psaume 22, il dit « Où es-tu, Seigneur ?» Il dit « Où es-tu ?» Là, je suis un peu dans... Et je ne te vois pas. Où es-tu, Seigneur? Je te cherche. Est-ce que tu peux au moins te manifester un peu? Et puis au psaume 23, il dit, l'Éternel, mon berger, je ne manquerai de rien. La prière, c'est ça. C'est d'être devant notre Dieu, disponible, avec tout ce que nous pouvons traverser. Avec l'assurance qu'il nous entend, qu'il nous écoute, qu'il est toujours là à notre écoute. Et qu'il répond. Et qu'il répond. Et comme dit l'une de nos sœurs, qui répond en son temps. Il répond en son temps. C'est la petite partie là qui est un peu décalée pour nous. Parce que parfois son temps, on aimerait bien que ça coïncide toujours avec le nôtre. Mais c'est là que vient la notion de la souveraineté de Dieu. Et c'est là que vient le verset 28. C'est là que vient le verset 28. Vas-y. Tout coopère pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Le verset 28 dit, nous savons du reste, nous savons du reste, nous savons du reste, que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. Nous savons du reste. N'oublions pas ce début de ce verset. Ce début-là, parfois, on le passe vite fait à la trappe et on tombe sur tout concours au bien de ceux qui aiment Dieu. Non, nous savons. Ça veut dire que, d'une certaine façon, le chrétien authentique a l'intuition, même s'il n'arrive pas toujours à bien comprendre et comprendre pleinement, où peut être ce bien-là, et que même si dans son expérience, il ne vit pas toujours ce bien, mais il a cette conviction que Dieu veille sur lui, et que tout ce qui lui arrive, Dieu étant au courant, va l'aider, va le secourir, va l'accompagner, va être son soutien. C'est pour cela qu'on a ce psaume de David, d'où me viendra le secours. Le secours me viendra de l'Éternel. Je lève les yeux vers la montagne. N'oublions pas que ce contexte de chapitre 8 parle de souffrance. Il dit que si nous sommes enfants de Dieu, n'est-ce pas, comme nous l'avons lu au verset 16, que l'Esprit de Dieu témoigne que nous sommes enfants de Dieu, c'est vrai que nous le sommes. Nous le sommes en participant non seulement aux souffrances du Christ, mais aussi à sa glorification, n'est-ce pas? Donc les épreuves, les difficultés ne sont pas rayées de la vie d'un enfant de Dieu. Non, non. Cet évangile qui nous fait croire que si on est chrétien, tout est nickel, tout est parfait, tout est nivelé, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de maladie, il n'y a pas de preuve, il n'y a pas de difficulté, il n'y a pas de souffrance, c'est un faux évangile. Parce que tant que nous serons sous cette condition humaine, même si nous sommes chrétiens, nous sommes sous le même lot que les autres humains. À la différence que Dieu, parce que nous sommes chrétiens, va tout faire concourir à notre bien. C'est la différence. Est-ce que nous en sommes convaincus? Pas toujours. Pas toujours. Vas-y, s'il te plaît. Est-ce que nous en sommes convaincus? Pas toujours. Et cet auteur pose la question à l'apôtre Paul en faisant son commentaire biblique qui dit « Apôtre Paul, sur quelle base peux-tu affirmer si sérieusement que tout coopérera à notre bien ?» Sur quelle base le Seigneur t'a-t-il convaincu de nous écrire ce verset 28? Sous quelle base? Il dit premièrement parce que Dieu a un dessein dont nous connaissons l'aboutissement. Dieu a un projet dont nous connaissons l'aboutissement. Connais-tu l'aboutissement du projet de Dieu dans ta vie? Souvent quand on parle de cet aboutissement, ça va dans tous les sens, n'est-ce pas? On cherche des aboutissements financiers, matériels. C'est ça qu'on regarde d'abord. Parce que nous sommes des êtres humains, nous sommes des êtres matériels. Et que ce qui nous intéresse, malheureusement en premier, c'est le matériel. Or, c'est la chose que nous laissons ici quand nous partons pour l'éternité. C'est la seule chose que nous n'emportons pas. C'est la seule chose que nous n'emportons pas. Dans les temps passés, dans les civilisations anciennes, on pensait qu'on partait avec ses biens. C'est pour cela que dans cette haute Égypte, on enterrait les pharaons avec tous les biens dans les pyramides. Sauf qu'aujourd'hui, on a découvert que les biens là, ils sont là. Mais que les pharaons sont devenus des momies. Eux, ils ne sont plus là. Donc, ils ne sont pas partis avec leurs biens. Puisque les biens, plusieurs siècles après, sont encore là. C'est la seule chose qu'on n'emporte pas, les biens matériels. Oui, on en a besoin pendant qu'on est vivant. Oui, il faut se mettre à l'abri du besoin. C'est une réalité. Par contre, ne changeons pas les priorités. Dans Luc chapitre 15, le Seigneur dit « Que peut donner un homme pour son âme, pour le prix de son âme ?» Car une âme n'a pas de prix en correspondance matérielle. Il prend cette parabole de ce monsieur riche. Il dit « Voici quelqu'un qui avait... » Vraiment, c'était un bosseur, un grand travailleur, qui n'était pas satisfait des richesses qu'il avait. Il avait raison. Et il s'est dit, je vais encore travailler dur, je vais amasser pour que j'aie en abondance pour mes jours et que je puisse rester tranquille pour plusieurs décennies. On dit que c'est un riche, en tout cas dans les 10 personnes les plus riches du monde, on dit que leurs richesses vont permettre à 6 générations après eux de ne pas travailler. C'est-à-dire ce qu'ils ont magasiné permet à 6 générations de leurs descendants d'être tranquilles. C'est bien ça. Et c'est un peu ce que Jésus dit sur ce monsieur. Il dit, ce monsieur, il a amassé, il a vraiment bien, et il s'est assis, et il a dit, mon âme, tu peux te reposer, maintenant, tu es tranquille. Et Jésus dit dans cette parabole, il y a une voix qui parle à son oreille, qui lui dit, insensé que tu es. Crois-tu que la vie d'un homme dépend de ses biens? Dès ce soir même, ta vie te sera ôtée, et tout ce que tu as emmagasiné, tu verras qui en profitera. Il dit, car aussi riche soit un homme, sa vie ne dépend pas de ses biens. Bien-aimés, nous avons besoin de nous mettre à l'abri du besoin. Nous avons besoin de travailler pour mettre ce que nous aimons à l'abri du besoin. Nous avons besoin de travailler pour financer les bonnes œuvres que Dieu nous a invités à faire. Nous avons besoin de travailler pour financer l'œuvre de Dieu. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit par contre de discerner le but du plan de Dieu pour nos vies. Pourquoi Paul sait que toute chose concourt bien de ce qu'aime Dieu? Parce qu'il dit en premièrement, nous savons, nous connaissons l'aboutissement du dessein de Dieu. Ce dessein merveilleux commence dans l'éternité passée. On ne peut même pas le situer. Parce que l'éternité passée, allez me mettre un point sur ce repère de l'éternité passée, on ne peut même pas le situer. Ok? Ce dessein commence dans l'éternité passée, si nous pouvons parler ainsi, et se prolonge dans l'éternité future. Nous sommes des êtres éternels, il ne faut pas l'oublier. Les êtres humains sont éternels. Nous sommes des êtres éternels. Nous venons de nulle part, créé par Dieu. Le prophète dit, quand j'étais encore une masse informe dans le ventre de ma mère, tu me connaissais. Avant même que mes pensées, que mes parents aient la pensée de me concevoir, tu savais. Tu savais. Aucun brin de mes cheveux ne tombe au sol sans que l'Éternel ne le sache. Il connaît chacun de nous par nos noms. Toute famille tire son existence du Père de lumière qui est dans les cieux. Tout est lié à Dieu. Tout est lié à Dieu. Tout est lié à Dieu. Il est infaillible parce que c'est le dessein de Dieu. Et si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Ceux qui sont appelés sont ceux qui ont été invités à recevoir la grâce divine, qui l'ont effectivement acceptée. Ensuite, par reconnaissance, ils se sont mis vraiment à aimer Dieu. Et c'est l'enseignement du Nouveau Testament. Et ce Nouveau Testament dit quoi? Quant à nous, nous aimons Dieu parce qu'il nous a aimés le premier. 1 Jean chapitre 4, verset 19. Quant à nous, nous aimons Dieu parce qu'il nous a aimés le premier. Si Dieu nous a aimés le premier, et comme le texte le dit ici, car toute chose concourt bien à ceux qui aiment Dieu, qui sont appelés selon son projet, selon son dessein, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi destinés d'avance à être configurés à l'image de son Fils, pour qu'ils soient les premiers-nés d'une multitude de frères. Le plan, l'aboutissement du plan de Dieu pour toi, mon frère, pour toi, ma soeur, c'est que tu ressembles à Jésus-Christ. Ça veut dire que tout ce que Dieu fait dans le monde pour toi, c'est que tu deviennes comme Jésus-Christ. C'est énorme, hein? Souvent, nous-mêmes, on n'a pas conscience de ça. Alors qu'on s'appelle chrétien et que étymologiquement, chrétien veut dire petit Christ. Alors que nous sommes des petits Christ, nous n'avons pas conscience que l'aboutissement du dessein de Dieu, du projet de Dieu, c'est que seconde après seconde, minute après minute, heure après heure, jour après jour, mois après mois, année après année, tu ressembles un peu plus à Jésus-Christ. Je ressemble un peu plus à Jésus-Christ. C'est un bon projet, n'est-ce pas? Mais nous n'avons pas toujours conscience que c'est un bon projet. Parce qu'on dit, ah, Jésus, il était Dieu, Jésus. Nous savons que Dieu a un plan pour lui, pour chacun de nous. Ce plan, nous le savons parce que nous sommes appelés par Dieu. Parce que bien avant la fondation du monde, Dieu nous avait choisis. Ce dessein, c'est que nous tous, croyant que nous sommes, nous puissions vraiment concevoir que Dieu, il sait tout d'avance, il connaît tout d'avance. Ce n'est pas qu'il sait dans le sens où il sait que ça va venir. Non, il connaît, il maîtrise, il est souverain, n'est-ce pas? Et parfois, on bute un peu sur cette souveraineté de Dieu. Quand tout va bien, on ne bute pas dessus, hein? Quand quelqu'un a réussi dans sa vie, il dit, c'est ma destinée. Quand quelqu'un est quelqu'un qui finalement, comme on dit, a une étoile, où il brille dans le monde, on dit, ah, c'était sa destinée, il était destiné à ça. Et quand tout va mal, quand on est au fond du trou, est-ce que c'est notre destinée aussi? Là, on refuse. Là, tout le monde dit, mais non, mais quand même, si Dieu existe, pourquoi? Et c'est là que entre en ligne le programme du Dieu souverain. Et j'aimerais donner quelques mots à la fin de ce message sur la souveraineté de Dieu. Le mot providence est un mot théologique qu'il ne faut pas confondre avec ce qu'on appelle vulgairement, ordinairement, la providence. Ordinairement, la providence, c'est la prévoyance, hein. Faire providence, c'est faire prévoyance. Ce n'est pas ça qu'il s'agit. En théologie, le domaine de la providence signifie que Dieu a une activité continue. Et cette activité continue, c'est au travers d'elle que Dieu fait en sorte que tous les événements des domaines matériels, mental, moral, accomplissent leur but. Et ce but n'est rien d'autre que le dessein originel de Dieu dans la création. S'il est le créateur de toutes choses, et c'est ce qu'il est, il maîtrise tout parfaitement. Il connaît tout parfaitement. Rien ne lui échappe. Les attributs de Dieu, c'est omniscience, omniprésence, omnipotence. Il est partout, dans l'éternité passée, dans l'éternité future. Ça, c'est l'omniprésence. Il est omnipotent, il sait tout faire. Il sait tout faire. Il sait tout faire. Du reste, il a créé l'humanité à partir de rien. Le seul qui crée à partir de rien, c'est Dieu. C'est pour ça qu'on dit en réalité, les hommes ne créent pas, ils inventent. Créer, c'est à partir de rien. Or, nous les hommes, nous ne créons jamais à partir de rien. Nous partons toujours d'une idée quelque part pour inventer. Et c'est pour cela qu'en hébreu, il y a un seul mot qui qualifie la création de Dieu, c'est le mot bara. C'est à Dieu ce qu'on attribue. Il est le seul à créer à partir de rien. Que la lumière soit et la lumière fut. Pendant les 5 jours de la création, Dieu a créé tout à partir de rien. La seule création qui n'a pas créé à partir de rien, d'après vous, c'est laquelle? C'est l'homme. Parce que l'homme, il a créé à partir de la poussière. C'est à partir de la poussière que Dieu nous a créé. Mais l'univers, Dieu l'a créé à partir de rien. Bah. Donc il est souverain, c'est son monde à lui, c'est son univers. C'est lui le maître des temps et des circonstances. Rien ne lui échappe. Rien ne lui échappe. Tout est sous son contrôle. Et on pose la question, même le mal. Oui, même le mal est sous le contrôle de Dieu. On dit, oula, 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 oula. Mais bien sûr, si rien ne lui échappe, comment le mal ne peut pas être sous son contrôle? Et c'est pour cela qu'on définit quelques catégories de ce qu'on appelle la providence de Dieu.
Vas-y encore.
Il y a ce qu'on appelle la providence préventive en ce qui concerne le mal. Dieu empêche souvent l'homme de commettre le péché qu'il avait l'intention de commettre. Mais ça, nous, on ne le sait pas. Il n'y a que Dieu qui le sait. Donc, il ne faut pas croire. Si on calculait le nombre de péchés que les êtres humains, 7 milliards d'êtres humains commettent par jour, il faut réaliser qu'il y a le plus grand pourcentage de ce mal que Dieu a empêché avant que ce petit pourcentage se matérialise. Hein? Je donnais cet exemple à la retraite des femmes. Le gouvernement nous dit que lui, il a déjoué plein de projets d'attentats. Mais nous, on ne sait pas. Puisque c'est la prérogative du gouvernement de veiller sur nous. Donc, en veillant sur nous, il y a plein de choses que nos gouvernements, que notre État, que notre police empêchent de se matérialiser. Et nous sommes bien contents. Quand nous allons dormir, nous n'avons pas la crainte qu'un voleur viendra forcément, même si on sait qu'il peut venir. Mais parce que le système est fait en sorte que ça dissuade les voleurs de venir voler tout le temps. En tout cas, dans certains pays. Il y en a d'autres, ce n'est pas le cas. C'est une forme de sécurité et de paix. Et Dieu est comme ça. Dans cette providence préventive, il empêche le mal. Il empêche souvent l'homme de commettre des péchés qu'il avait l'intention de commettre. Il y a la providence permissive. Dieu, au lieu d'empêcher activement l'homme de faire le mal, va parfois permettre au péché de suivre son cours. On dit, oula, Dieu fait ça? Ben oui, puisque Dieu, il a acquis que l'homme est un être avec une pensée libre. Nous avons le libre arbitre. C'est pour ça que Dieu a préalablement établi les règles. Et après préalablement, il a dit à Israël, voici, il y a 2 chemins. Le chemin de la vie et le chemin de la mort. Mais je te conseille de prendre le chemin de la vie. Après, c'est ta responsabilité de choisir. C'est toi qui choisis. Mais Dieu, il met le tableau devant toi. Pareil ce qu'il a fait dans Galates chapitre 5. Il dit, voici les œuvres de la chair, nous les connaissons. Il cite les œuvres de la chair. Il dit pourtant, n'allez pas, ne vous laissez pas conduire par la chair. Parce que les œuvres de la chair conduisent à la mort. Mais voici les œuvres de l'esprit. Laissez-vous conduire par l'esprit et vous n'accomplirez pas les œuvres de la chair. Car vous êtes mort au péché et soyez vivant par l'esprit. Donc là aussi, c'est un père pédagogue qui est averti, qui fait une pédagogie préventive. Donc, si l'être humain enfreint cette prévention, bah Dieu le laisse faire, puisque c'est lui qui l'a choisi. il y a la providence dirigée. C'est-à-dire, même s'il permet le mal, il dirige ce mal de façon que ce mal accomplisse sa volonté à lui. Quand Satan avait acquis de mettre à mort Jésus, il ne savait pas que Dieu était capable, déjà dans sa préscience, de tourner ce mal. Je l'ai dit au groupe des femmes, vous savez la croix qui est là? Aujourd'hui, c'est un objet de culte. Mais dans le passé, on n'aurait pas fait ça. Parce que cette croix-là, c'est comme si nous, on avait une photo de la chambre à gaz de Hitler, ou si on avait une photo de la chaise où on met les condamnés à mort aux États-Unis et qu'on l'affichait là. C'est ça que ça représentait au siècle de Jésus. Ça représentait la pire des façons de tuer les pires des criminels. C'était ça la croix. Et Dieu a transformé ce maudit bois en un objet de bénédiction. Car il a été pendu au bois. Il a été fait malédiction pour nous. Sur lui est tombé notre ignominie, notre infamie. Il a pris sur lui nos blessures, nos maîtrissures. Et grâce à Christ, il nous a donné la guérison, le salut. Alléluia. Dieu a dirigé ce mal en bien. Et puis, il y a la providence restrictive.
Vas-y, celui-là. Voilà, c'est bon.
Elle détermine les limites auxquelles le péché et ses conséquences pourront aller. En théologie, on dit que le péché, Dieu a fait en sorte que le péché ne nous atteigne pas totalement. Parce que s'il avait laissé le péché d'Adam et Ève nous atteindre totalement, il n'y aurait aucune once de bien dans aucun être humain. Tous les êtres humains seraient des détraqués. On serait tout le temps en train de tout le temps faire le mal, tout le temps. Mais Dieu, dans sa grâce infinie, a préservé le mal en nous, de sorte que même ceux qui n'ont pas Dieu en eux font le bien. Font le bien. C'est pour ça que certains refusent d'accepter Dieu. Ils disent, j'ai pas besoin de Dieu, le bien, je le fais là. Oui, c'est la grâce de Dieu, ce bien. Amen. Et j'aimerais terminer avec cette pensée de Jean Calvin. Parce que quand on parle de la souveraineté de Dieu, parfois, reste sur celle-là, je reviens. Parfois, on se dit, mais avec toutes ces permissions de Dieu, finalement. Et Jean Calvin dit, celui qui a fixé les bornes de notre vie nous a aussi commandé d'en prendre soin. Et il nous a donné les moyens de prendre soin de nos vies. Il nous a donné de prévoir les périls pour nous mettre à l'abri, des surprises. Il nous a donné les remèdes pour y parer. Notre devoir est donc évident. Puisque le Seigneur nous a remis la garde de notre vie, ayons-en soin. Puisqu'il nous a donné les moyens de la préserver, sachons en user. Puisqu'il nous a montré les dangers, n'allons pas follement nous y jeter. Puisqu'il nous a offert les remèdes, ne les méprisons pas. Donc il dit, oui, Dieu est souverain. Oui, Dieu est là et il y a le mal. Mais ce même Dieu nous a donné la parole de Dieu. Le projet de bonheur de Dieu nous l'a donné. Pourquoi nous ne nous centrons pas sur ce projet de bonheur? Et c'est pourquoi, quand les épreuves arrivent, au lieu de dire « Pourquoi moi, Seigneur, me vois articuler, Seigneur, et maintenant, qu'est-ce que je vais faire ?» C'est cela que je veux terminer avec vous.
Merci.
Quand on est pris dans ces tourments, des épreuves, des choses difficiles, et qu'on a l'impression que Dieu n'est plus souverain et que plein de choses nous échappent, et que nous sommes dans le tourment parfois de l'épreuve, on a souvent le sentiment de dire « Pourquoi moi, Seigneur ?» Je suis fidèle, je te suis, tu vois, je marche avec toi. Et l'autre qui ne marche pas avec toi, c'est ce qu'Azaph a fait. Hein? Azaph dit quand même, c'est en vain que je loue le Seigneur. Moi, je me casse la tête à marcher fidèlement avec Dieu. Et le maudit là, celui qui ne craint pas Dieu, lui, tout va bien chez lui. Il n'y a même pas une petite poussière de malheur dans sa vie. Et pourtant, tous les matins, il se lève et dit, est-ce que Dieu existe? Et lui, tu le laisses en bonne santé? Et moi qui dis que toi tu existes, je marche avec toi, je fais tout ce que tu dis, oh, ma vie est bien divisée. Il dit, j'ai dormi. Donc comme pour dire, j'ai médité, je me suis levé. Il dit, j'ai compris en fait. On peut avoir un chemin difficile à un moment donné, mais ce n'est pas la fin. Le méchant qui ne connaît pas Dieu, il peut avoir un chemin heureux, mais sa fin est tragique. Il dit, la fin du méchant est tragique. Il prend l'image, il dit, la fin du méchant, c'est comme une fleur qui le matin s'est épanouie, elle est belle, elle est éclatante, mais qui le soir a été arrachée, et même le sol où elle a germé là ne se souvient même plus d'elle. Parce que le sort du méchant, c'est l'enfer. C'est la perdition éternelle. C'est la guerre. Mais le juste, même s'il traverse des épreuves, elles ne le submergeront pas. Parce que l'Éternel fait concourir toutes choses au bien de ceux qu'il aime et qu'il veille. L'Éternel ne sommeille ni ne dort. Il veille sur ceux qu'il aime. Nous sommes la prunelle des yeux de Dieu. C'est pourquoi, au lieu de dire pourquoi Seigneur, pourquoi moi, il faut plutôt articuler les choses pourquoi. Parce que le pourquoi nous enferme. La bonne question que Jésus nous donne de mettre en main, c'est « Et maintenant ?» Cette question transforme le paysage de souffrance, d'absurdité, fortuite, de hasardeuse et devient une partie vitale du grand plan de Dieu. Seigneur, si tu fais tout concourir à mon bien, ce que je traverse maintenant, ça veut dire que ça doit concourir à mon bien. Aide-moi à le comprendre pour que je l'articule autrement maintenant. Voilà, bien-aimés, quelques exhortations ce matin. Notre bien final, c'est de ressembler à Jésus-Christ. Puisque nous connaissons avec certitude la fin de notre histoire, restons à la suite de Jésus. Soyons dociles, soyons confiants. Quand même la tempête fait rage, soyons confiants, persévérons, car il est fidèle. Il n'a pas dit que nous périrons, il n'a pas dit que nous serons détruits, il a dit qu'il nous fera passer de l'autre rive. Il nous mettra en sécurité. Il veille sur nous. Amen. Que Dieu nous bénisse ensemble.